Vous écoutez RTL.
Il est 12h30.
Quentin Vinet.
RTL Midi.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron commémore en ce moment le 75e anniversaire de la rafle du Veldiv à Paris. Aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président reconnaît lui aussi la responsabilité de la France.
C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc, pour presque tous, la mort des 13 152 personnes de confession juive.
Nous allons y revenir dans un instant. L'incendie est stabilisé à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, mais les pompiers sont toujours sur place pour éteindre définitivement les flammes qui ont parcouru 750 hectares de végétation depuis hier après-midi. La disparition de la romancière Anne Gollon, elle avait 95 ans, elle avait écrit la saga Angélique, vendue à des millions d'exemplaires partout dans le monde, interprétée au cinéma d'ailleurs, document RTL. Dans ce journal, vous entendrez la réaction de Robert Hossein. La 15e étape du Tour de France, cet après-midi, le Français Romain Bardet sera sur ses terres à la arriver au Puy-en-Velay. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Soleil pour tout le monde aujourd'hui.
Presque tout le monde. Il reste encore un tout petit peu de grisaille entre le Nord Finistère et le Nord Pas-de-Calais. C'est pas grand-chose. Il n'y aura pas de véritable dégradation du temps, mais un ciel quand même souvent nuageux. Les éclaircies sont venues sur l'Île-de-France, sur la Champagne-Ardenne aussi, ainsi qu'en Lorraine, en Alsace et partout ailleurs. Un ciel tout bleu. Dans le midi, il y a encore un petit peu de vent, moins qu'hier, mais tout de même, les rafales peuvent atteindre 60 km/h dans la vallée du Rhône. Et puis les températures continuent de grimper. 25 degrés à Lille cet après-midi, 27 à Mulhouse, 29 à Paris, 30 pour Nantes et Lyon, 31 à Toulouse et 32 à Bordeaux et Marseille.
Merci Valérie, un rendez-vous avant 13h, rendez-vous de l'été, chemin d'écrivain, ce sera tout à l'heure avec Bernard Lehu.
Quentin Vinet,
RTL Midi.
75 ans après, Emmanuel Macron affirme donc que c'est la France qui a organisé la rafle du Veldiv à Paris en 1942. Le président commémore avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le 75e anniversaire de l'un des épisodes les plus noirs de l'histoire de France. Plus de 13 000 juifs arrêtés à la demande des nazis avant d'être déportés en 42. Céline Landreau, vous assistez à la commémoration pour RTL. Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou rappellent tous les deux l'importance du devoir de mémoire.
Ah oui, un devoir martelé ici tout au long de la matinée en mémoire de ces milliers de victimes, victimes de l'État français, comme a tenu à le rappeler le président de la République, Emmanuel Macron.
Je le redis ici, c'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc, pour presque tous, la mort.
Et jamais tout au long des discours, la face sombre de cette histoire n'a été occultée, ni au travers des nombreux témoignages, des rescapés, mais aussi des enfants de déportés. Mais cette cérémonie avait aussi une dimension très politique, car à côté d'Emmanuel Macron, et pour la première fois, se tenait Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a tenu à prononcer quelques mots en français.
Cette invitation pour commémorer ensemble, main dans la main, est un geste très très fort. Elle témoigne de l'amitié ancienne et profonde entre la France et Israël.
Une amitié qui s'est traduite aussi dans les gestes, longue accolade entre les deux hommes à l'issue du discours pour un combat affiché contre l'antisémitisme 75 ans après ce drame du Veldiv est toujours d'actualité.
Alors la question se pose, Céline Landreau, est-ce que Emmanuel Macron va plus loin que Jacques Chirac dans ses propos ?
Eh bien, en tout cas, il s'inscrit, ça c'est une certitude, dans la lignée du président Chirac, à qui il a d'ailleurs rendu hommage dès le début de son discours, et qui, le premier, avait reconnu en tant que président de la République la pleine responsabilité de l'État français, c'était en 95. Aujourd'hui, la ligne n'a pas changé.
Je récuse les accommodements et les subtilités de ceux qui prétendent aujourd'hui que Vichy n'était pas la France. Car Vichy, ce n'était certes pas tous les Français, vous l'avez rappelé, mais c'était le gouvernement et l'administration de la France.
Un message à peine voilé à la responsable du Front National, Marine Le Pen. Vichy, c'était la France et plus que jamais à l'Élysée. On insiste aujourd'hui pour que la nation regarde son histoire en face, fussent-elles ses pages les plus sombres.
Céline Landreau en direct de Paris pour RTL. Emmanuel Macron se confie aujourd'hui dans le journal du dimanche. Le président qui, vous le savez, a renoncé à la traditionnelle interview du 14 juillet revient sur la visite de Donald Trump en France. Il raconte que le président américain a ouvert la porte à un retour dans l'accord de Paris sur le climat. L'Europe met en garde la Turquie aujourd'hui. Le pays n'entrera pas dans l'Union européenne sans respect de la démocratie. C'est ce que fait savoir le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le président turc Erdogan promet armée d'arracher la tête des traîtres, autrement dit, de tous les responsables de la tentative de coup d'État il y a un an. Ce message, il l'a fait passer en s'invitant sur les téléphones portables des habitants de Turquie. Camille Guillot, vous êtes la correspondante de RTL dans ce pays.
Imaginez-vous en train de passer un coup de téléphone. À la place de la tonalité d'appel, vous entendez ça.
En tant que président, je vous adresse mes vœux pour la journée de la démocratie et de l'unité nationale. J'implore la compassion de Dieu pour nos martyrs.
Un message surprise délivré par le président Erdogan en personne pour quiconque passait un appel hier aux alentours de minuit. Ce n'est qu'après avoir écouté le message qu'il était possible d'entrer en contact avec son interlocuteur. Cette initiative inédite a réjoui les sympathisants du gouvernement ou en a fait rire d'autres qui n'en croyaient pas leurs oreilles. Cette surprise du président turc dans les téléphones n'en a pas moins été critiquée. Si on doit appeler une ambulance, sommes-nous vraiment obligés d'écouter le président et de perdre du temps, s'interrogeaient des Turcs sur les réseaux sociaux. Ça suffit, c'est un cauchemar, a encore déploré un député de l'opposition. Preuve que l'intrusion passe mal, le hashtag Big Brother is watching you, il t'espionne, a été largement utilisé. Et cet internaute de tweeter, même George Orwell dans son roman 1984, n'y avait pas pensé.
Camille Guillot, la correspondante de RTL en Turquie.
Quentin Vinet,
RTL Midi.
Plus de 800 pompiers luttent toujours contre les flammes dans les Bouches-du-Rhône et tentent de venir à bout de l'incendie qui a détruit environ 750 hectares de végétation depuis hier après-midi à Saint-Cana, c'est près d'Aix-en-Provence. Une quarantaine d'habitants et de touristes retrouvent leur maison depuis le milieu de la matinée. Ils avaient dû évacuer hier à cause des flammes. Gauthier de Lombugard, vous êtes sur place pour RTL. L'heure est au soulagement.
Oui, effectivement, car dans cette commune, les habitants ont eu une grosse frayeur. Cette nuit, le feu est parti d'un champ aux abords du village avant de gagner toute la forêt, probablement à cause d'un jet de mégots de cigarettes. Le feu qui a ensuite entouré les maisons. Plusieurs habitants ont dû évacuer leur domicile. Au final, quelques dégâts, mais on a évité le pire, selon Jackie Gérard, le maire de Saint-Cana.
Il y a d'énormes dégâts au niveau de la forêt. Et il y a eu quelques bâtiments qui ont été léchés par les flammes, mais bon, sans trop de dégâts intérieurs. Et il y a une maison, une petite maison qui a brûlé, ainsi qu'un hangar. Donc par rapport à l'ampleur du sinistre, on est relativement, c'est toujours relatif, satisfait de, je dirais, de la limitation de ces dégâts. Alors certains ont été évacués, c'est parce qu'il y avait des remontées de feu, des reprises à l'arrière du front de feu, et donc sont restés jusqu'à ce matin 8h, mais il y a eu un mouvement de solidarité pour l'hébergement, on a inventorié toutes les possibilités, gîtes, chambres d'hôtes, habitants et autres. C'était un feu très difficile à traiter.
Autour de nous, au PC de crise installé à quelques centaines de mètres de l'incendie, les champs sont noircis par le feu éteint cette nuit. 700 hommes, des moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés pour réduire les flammes, éviter que d'autres foyers ne se déclarent.
Gauthier de Lombugard à Saint-Cana pour RTL. Alors nous sommes en ligne sur le terrain avec le commandant Christian Médani des pompiers. Bonjour.
Oui, bonjour.
Commandant, l'incendie est stabilisé, on est d'accord à l'heure qu'il est?
Oui, à l'heure qu'il est, l'incendie est stabilisé. Bon, il y a quand même de multiples foyers résiduels qui doivent être traités. C'est la raison pour laquelle on a maintenu le dispositif de 800 sapeurs-pompiers, 210 véhicules qui butent à pied d'œuvre pour justement traiter ces multiples foyers résiduels. Sachant qu'on est aidé aussi par la météo, puisque le Mistral est tombé depuis ce matin et il est orienté sud-sud-est. Donc ça va considérablement nous aider pour parfaire l'extinction.
On est d'accord, incendie stabilisé, ça veut dire que les flammes ne progressent plus et que vous travaillez maintenant à les éteindre définitivement.
Tout à fait, on procède à ce qu'on appelle au noyage de tous ces foyers résiduels qui nécessitent d'être traités de manière à éviter toute reprise cet après-midi.
Compte tenu des conditions météo, cela va prendre combien de temps?
Bon, plusieurs heures, hein. On en aura encore pour la journée, je pense. Hein. Sachant que nos trois principales préoccupations, c'était en fait que le village d'Aiguille soit préservé. Il y a également la ligne TGV qui devait être également protégée. Et grâce à l'action des sapeurs-pompiers, on a également pu sauvegarder plus de 2000 hectares de forêt.
Ce sont 750 hectares de végétation environ qui ont brûlé depuis hier après-midi.
750 hectares parcourus, bon, ça nécessitera d'être affiné. Hein. Il faut compter à peu près quand on affine le pourtour du feu à deux tiers de la superficie. Donc normalement, la superficie doit être moindre, autour de 500-600 hectares, une fois une évaluation affinée du pourtour du feu.
On sait que les sols sont secs dans le sud-est, avec plusieurs départements qui ont été placés en vigilance sécheresse ces dernières semaines. Vous craignez, là, pour le reste de l'été, d'autres départs de feu?
Ah oui, mais de toute manière, on craint pour toute la saison de l'été. Hein. C'est toujours à craindre, hein. Un feu qui nous échappe et qui prend des proportions énormes. C'est difficilement maîtrisable lorsqu'on a des conditions
aussi défavorable.
Cela veut dire que vous incitez les habitants et les touristes à la vigilance ?
Absolument, parce qu'il faut savoir que 70% des feux sont quand même d'origine accidentelle, 34% dû à la malveillance, donc il faut rappeler les conseils de sécurité et éviter justement de jeter les mégots par les fenêtres, les travaux de machines-outils en lieu forestier, éviter les feux de camp, les barbecues, avoir les moyens d'extinction à proximité, toutes ces consignes qu'on rappelle chaque été et qui malheureusement, quelquefois pour certains, n'ont pas d'impact et continuent à commettre des imprudences et des négligences.
On vous remercie beaucoup, commandant Christian Médani, d'avoir pris un petit peu de votre temps pour venir discuter sur l'antenne d'RTL. Bon après-midi à vous.
Oui, bon après-midi, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Elle avait vendu des millions de livres partout dans le monde. On a appris ce matin la disparition de la romancière Anne Gollon à l'âge de 95 ans. Une femme de combat qui est morte vendredi à Versailles pour les raisons de santé. Elle avait écrit la saga Angélique, un classique de la littérature populaire, une des plus belles réussites de tous les temps, adaptée au cinéma. C'était dans les années 60.
Tu ne me tromperas jamais.
Jamais.
Si tu me trompais,
tu me tuerais.
Voilà, vous reconnaissez les voix de Michel Mercier qui incarne la jeune Angélique et de Robert Hossein qui se souvient d'Anne Gollon ce dimanche sur RTL.
Je suis très, très touché. Ça me rappelle tellement de souvenirs, mais comme ça, violent, passionné, soudain, inattendu. Pendant des années, j'ai rencontré cette femme pleine de talent qui a écrit toute une œuvre admirable. Angélique continue à se répandre partout. Je garderai d'elle qu'elle est un auteur absolument remarquable, tout à fait bouleversant par rapport à cette œuvre qu'elle a écrite, dont on a tiré tellement de films, et je vais même plus loin, elle m'a donné l'impression qu'elle était à travers son œuvre immortelle.
Alors Robert Hossein, c'est un document RTL de Vincent Serrano pour RTL.
RTL. Tour de France 2017.
C'est la 15e étape aujourd'hui sur le Tour de France. Les coureurs partiront un petit peu après 13h pour 189 km accidentés entre Lessac, Sévérac-l'Église et le Puy-en-Velay. Quatre cols sont répertoriés. Christian Olivier, vous êtes sur la grande boucle pour RTL. On reverra sans doute le Français Romain Bardet puisqu'il est sur ses terres.
Exactement, avantage Bardet, né à Brioude, qui connaît parfaitement bien ses routes d'entraînement sous un soleil de plomb, 30 degrés à la mi-journée, de l'Aveyron en passant par la Lozère et une arrivée en Haute-Loire. Quatre difficultés allant de la première à la quatrième catégorie, parmi lesquelles les doux noms de Navès-d'Aubrac en tout début de journée et le col de Peyrat-Taillade, 1990 mètres d'altitude tout de même. Départ désormais dans 25 minutes avec la Bardet-Mania qui se met en place partout où le bus AG2R stationne et d'où descend le dossard numéro 11, la mèche brune un peu à la Jeanne Masse avant d'enfiler le casque pour aller au contrôle de signature. Ovation lorsque le speaker annonce son nom. Les supporters croient en lui, Bardet croit en son équipe et appuie sur la notion de collectif. Croire en nos rêves, c'est d'ailleurs le slogan marketing inauguré et imaginé par le staff avant même le grand départ de Düsseldorf. Chaque jour qui s'annonce est une occasion pour Romain Bardet de chambouler les quilles. D'ailleurs, hier soir, logé à Honnête-le-Château, Bardet, avec quelques fourmis dans les mains pour tenter d'aller faire un bowling. Bowling qui était à côté de son hôtel, mais il faut rester sérieux. Le vrai strike, c'est au classement général qu'il faut le réaliser. Classement 2007, le plus serré de l'histoire du Tour. Froome, Haru, Bardet, Uran en 29 secondes. Ce soir à l'arrivée, Romain Bardet tentera de s'offrir une partie gratuite.
Christian Olivier sur la grande boucle pour RTL. Encore une médaille d'or pour la France au championnat du monde de natation qui se déroule en Hongrie. Aurélie Muller vient de remporter l'épreuve du 10 km en eau libre. C'est une revanche pour elle. Elle avait été disqualifiée l'an dernier après avoir terminé deuxième aux Jeux Olympiques de Rio. Elle sera d'ailleurs l'invitée de RTL en direct de l'équipe ce soir sur RTL. Un match pour l'histoire en tennis. Le Suisse Roger Federer disputera cet après-midi à Wimbledon la 29e finale de Grand Chelem de sa carrière contre le Croate Marin Cilic. Il peut marquer l'histoire de son sport en remportant un 19e titre dans un tournoi majeur. Il est midi et 44 minutes sur RTL. Dans un instant, vous allez retrouver Bernard Lehu pour Chemin d'écrivain en compagnie de Bernard Minier.
RTL midi,
Quentin Vinet. Bernard Lehu, Chemin d'écrivain sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver cet été encore en compagnie de quelques-unes et quelques-uns de vos auteurs préférés. Je vous invite à les suivre dans des lieux qui leur sont chers. Sur le premier de ces chemins, notre guide est Bernard Minier. Dès son premier polar glacé, il est devenu l'un des maîtres du genre. Bernard Minier vous attend dans les paysages de son enfance qui sont aussi ceux de Glacé et de son dernier roman Nuit.
Alors nous sommes à Montrégeau, c'est dans le Comminges, au pied des Pyrénées, dans le Piémont. extrêmement pyrénéen. C'est la ville où j'ai grandi, où j'ai passé les 17 premières années de ma vie. Et où aussi j'ai trouvé l'inspiration pour pas mal de mes romans, puisque là on est sur un belvédère où on voit la chaîne pyrénéenne. Enfin, on est censé la voir, elle est un peu bouchée aujourd'hui.
Cette barrière devant nous, quand vous étiez ici enfant et adolescent, vous y alliez en famille? C'était un lieu d'excursion, de vacances, de villégiature? Enfin, quelle relation entretiennent les habitants ici avec cette muraille des Pyrénées?
En fait, c'est un Finistère, parce que pour nous, la France s'arrêtait là, quoi. Et l'Espagne, c'était déjà une terre incognita. Alors on passait côté espagnol parce qu'on allait acheter des cigarettes, on allait acheter de l'essence, des alcools, mais on s'aventurait à peine dans le territoire espagnol, on le connaissait très peu. Et néanmoins, avec mes parents, j'allais excursionner dans les vallées pyrénéennes. J'avais une mère qui était assez catholique, donc chaque année on allait à Lourdes. Voilà, c'était le pire moment de l'année pour moi, cette espèce d'excursion là-bas. Je détestais ça. Je sais pas, j'avais déjà un petit... Pas un problème avec la religion, j'ai aucun problème avec la religion, mais j'avais voilà, ce côté merchandising et commercial qui existait déjà à l'époque. Hein.
Les marchands du temple.
Et voilà, les marchands du temple. Et passer une journée à Lourdes, c'était pour moi, c'était un peu une épreuve, quand même, je veux dire.
Alors, les hivers ici, j'imagine, sont longs et rudes. Quand on est enfant, adolescent, que fait-on?
Il y avait deux chaînes de télé, c'était la télé en noir et blanc jusqu'aux années 70. Et après, quand la couleur est arrivée, on avait l'impression d'être au cinéma. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de jeux vidéo. Donc, c'était une époque où il fallait s'inventer ses propres jeux. Et c'est ce qu'on faisait tout le temps. On inventait des jeux, on avait une imagination débordante. Et peut-être que finalement, c'est une chance qu'on a eue de faire travailler notre imagination, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont je me sers et sans doute qui remonte à cette époque-là. Il y avait une maison de la presse qui est finalement l'endroit où toutes mes premières lectures, je les ai trouvées là. Donc les Baume Moran de l'enfance et ensuite un merveilleux écrivain fantastique qui était Jean Rey, etc. Tout, je les ai trouvées ici dans cette...
Elle existe toujours, cette petite maison. On y va ?
Contente de vous voir.
Bah écoutez, moi aussi, ravi de revenir sur les lieux que j'ai hantés si souvent quand j'étais adolescent et où j'ai trouvé tant de lectures et tant d'émoi littéraire.
Bernard Minier, c'est notre lecture de l'été. Il n'y a pas de souci. Tous les vacanciers, nous leur proposons du Bernard Minier. Ça leur apprend à connaître un peu la région aussi, puisque le premier glacé est vraiment ici même. Donc les gens se retrouvent dans le livre, resituent l'action et donc l'imagination travaille encore plus.
C'est vrai, c'est vrai.
Merci beaucoup de votre visite, monsieur Minier.
Merci, madame. Ça n'a pas tellement changé, finalement. Ça ressemble à ce que j'ai connu. C'est l'avantage des endroits comme ça, c'est qu'ils restent un peu hors du temps. Ils restent, quand on vit à Paris, quand on voit le monde changer à toute vitesse, y compris quand on allume sa télé, ça, c'est un côté assez reposant de retrouver des endroits comme ça.
Alors Montrégeau, ben on est un peu sur une hauteur là, face à cette barrière des Pyrénées, et puis je vois en contrebas la rivière là.
Alors ça, c'est tout simplement la Garonne.
Ah oui.
C'est la Garonne qui descend des Pyrénées et qui vient d'Espagne, où elle trouve sa source, et qui ensuite s'en va rouler jusqu'à Toulouse, passer sous les ponts de Toulouse, et puis ensuite, comme le disait Claude Nougaro, trouver solution à Bordeaux. Et c'est vrai que la Garonne, en étant plus reculée, c'était quasiment l'autoroute de la région. C'est par où passer les marchandises, par où passer. Donc il y avait des ports, il y avait des... Et c'est un axe aujourd'hui qui est encore, pour les gens d'ici comme pour les Toulousains, très significatif.
Quelle est la prochaine étape de ce chemin d'écrivain Bernard Minier?
Moi, je pense qu'on ne peut pas être ici sans passer par Saint-Bertrand-de-Comminges, hein, qui est un endroit absolument extraordinaire. C'est tout près, c'est une dizaine de kilomètres. Alors il ne faut surtout pas confondre avec Saint-Martin-de-Comminges, la ville imaginaire, je précise, de mes romans, qui n'a strictement rien à voir, qui est, elle, en revanche, beaucoup plus inspirée par Luchon, Bannière de Luchon. Mais bon, Saint-Bertrand, c'est une étape incontournable, donc on va...
Ben on va y aller, alors.
On va faire un saut plus jusque-là.
Donc on y est?
Oui, on est tout en haut. C'est considéré comme un des plus beaux villages de France, mais ce qu'on va voir... Tout de suite, c'est absolument fabuleux. C'est la cathédrale Sainte-Marie qui est un exemple, une réussite exceptionnelle en matière de fusion entre art gothique et art roman. Et ça, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et Saint-Bertrand, moi, quand j'y reviens, je pense toujours au nom de la rose. Ça, ce côté absolument magique. Cette façon qu'elle a, cette cathédrale, dont le clocher ressemble furieusement à un donjon. Il y avait même un fossé qui séparait le parvis des rues de la cité à l'époque. La façon dont elle écrase le village, dont elle est monumentale, et elle a une telle présence, et on pense à ce lieu dans le film et dans le livre, qui de la même façon écrase tout ce qu'il y a autour. cette présence divine matérialisée dans la pierre. Et ce rapport toujours complexe que j'ai eu avec la religion, parce que comme je l'ai dit, j'avais une mère qui était croyante, et moi, si je suis né à l'intérieur de la religion, je me propose un peu de mourir en dehors d'elle. Donc voilà, j'ai toujours cette part ambiguë, cette rapport ambigu à la religion, et en même temps cette fascination pour tous ces édifices qui font l'identité de cette région aussi également. J'avoue que c'est quelque chose. Ouais, attention à la marche. Ah, c'est un lieu absolument extraordinaire. Hein. Ce sont des îlots au milieu de la civilisation moderne, de toute son agitation, et de ce point de vue-là, je reconnais que je suis assez attiré par les églises, par ces lieux-là. Il y a quelque chose dans ces églises qui fait qu'on échappe à l'esprit du temps.
Bernard Minier, on va quitter Saint-Bertrand de Comminges, cette cathédrale, et nous allons où ? Prochaine étape de votre chemin.
Alors on va dans une petite vallée qui est vraiment pas la vallée la plus touristique des Pyrénées, je crois qu'il y a assez peu de touristes qui la connaissent, qui est la vallée de l'Ours de Ferrer au-dessus de Mont-Léon-Barousse.
L'Ours de ?
Ferrer. C'est, il y a un village d'ailleurs qui s'appelle Ferrer, et l'Ours c'est le nom de la rivière. Et donc c'est cette petite vallée où se trouve une colonie de vacances. Ça évoquera sans doute quelque chose pour les lecteurs de Glacé, puisque c'est là où j'ai trouvé une bonne partie de mon inspiration. Alors l'Institut Varnier ne s'y trouve pas, celui-là je l'ai inventé de toute pièce, mais la colonie de vacances, elle existe.
L'Institut Varnier, évidemment, lieu emblématique des aventures du commandant Servaz.
Oui, c'est un institut psychiatrique où sont enfermés des criminels reconnus comme déments par la justice, qui viennent un peu de toute l'Europe, ce qui évidemment est une fantaisie d'auteur, puisque ça n'existe pas, ce genre de choses. Et où enfermé en particulier un redoutable assassin qui s'appelle Julian Hartmann, qui est un peu l'alter ego et le meilleur ennemi de mon personnage emblématique, Martin Servaz. Alors quand j'ai imaginé cet institut, je voulais évidemment isoler mes personnages dans la montagne, comme ça au fond de cette vallée, l'hiver, et j'ai découvert cet endroit, tellement oppressant, tellement à la fois sinistre, majestueux, cette espèce d'inquiétante étrangeté que je recherchais. Donc voilà, c'est le cadre qui m'a inspiré pour la vallée de Glacé.
Eh bien, allons trembler dans la vallée de l'Ours de
Ferrer.
Bernard Minier, nous sommes dans cet ours Ferrer, au bord de l'ours, ce torrent, et au cœur de cette vallée assez sauvage, il faut le dire.
Oui, oui, ben, qui est la vallée qui mène à l'Institut Varnier dans mon roman. Institut Varnier qui évidemment n'existe pas, mais alors en revanche on voit la colonie de vacances qui se trouve sur le chemin. C'est celle-ci qui m'a inspiré en fait cette image-là, avec ce petit pont qui franchit le torrent. Et l'hiver, il n'y a absolument personne. La colonie est fermée, il n'y a pas la moindre voiture qui circule sur ces routes. C'est farci de neige à peu près partout, et ça a encore un tout autre aspect bien plus sinistre, ce qui, en ce qui me concerne, est parfait.
Nous partons maintenant pour la dernière étape de ce chemin d'écrivain dans les Pyrénées.
Oui, c'est Luchon, Bagnères de Luchon, qui est la ville qui m'a inspiré en grande partie, en tout cas, Saint-Martin-de-Comminges, ville, elle, fictionnelle. Voilà, c'est à la fois une station thermale doublée d'une station de ski, Super Bagnères, qui est au-dessus. C'est une ville fort ancienne, puisque les bains datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, et c'était aussi un endroit très couru au 19e siècle, puisque tout Paris s'y pressait.
Et donc, on va y retrouver une grande partie de Glacé, le premier polar, mais on y retourne aussi dans Nuit, le dernier.
Exactement.
Bernard Minier, nous voilà à Bagnères de Luchon, en réalité Saint-Martin de Comminges.
Alors là, on se dirige vers une scène importante dans le Glacé, qui est la scène des télécabines, où Martin Servaz, mon personnage emblématique, va croiser non seulement l'assassin vers lequel il court depuis le début du roman, mais aussi sa prochaine victime. Sauf que Martin monte alors que l'assassin et la victime descendent. Donc ils ne font que se croiser. Et ça, cette scène, je l'imaginais en voyant les télécabines qui partent du centre de Luchon et qui grimpent tout là-haut vers la station de Super Bagnères. Ce qui m'intéressait effectivement, c'est d'abord d'enfermer mon personnage de Servaz dans cette cabine. Il a le vertige, il faut savoir, ce qui rend la scène encore plus anxiogène, de faire en sorte qu'il soit prisonnier et d'assister à la mort imminente de quelqu'un sans pouvoir faire quoi que ce soit. Cette idée d'impuissance qui court fondamentalement dans une bonne partie du roman, puisque pendant presque tout le livre, sauf le dénouement évidemment, Servaz est assez impuissant, assez paralysé, assez désarmé par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est aussi un peu l'idée du personnage qui est souvent en décalage par rapport à tout ce qui lui arrive. Mais les bruits aussi sont souvent très présents dans mes textes. Et cette scène-là en particulier est tout à fait symptomatique de ce que j'essaie de faire.
Alors nous voilà arrivés devant ces thermes et ce jardin que tous les lecteurs, évidemment, de nuit connaissent, même sans y avoir mis les pieds.
Oui, c'est ici, dans ce jardin, qu'un personnage dont on taira le nom s'enfuit et que Servaz lui court derrière en pleine nuit, évidemment. C'est tout à fait différent comme impression que celle qu'on a ici, avec ce soleil de plomb qui nous tombe sur le crâne.
Et alors, ces thermes, qui est un véritable patrimoine architectural, c'est le Second Empire, c'est ça, hein. Je crois que c'est l'impératrice Eugénie qui a mis à la mode, qui a lancé ici les cures thermales.
Eugénie de Montijo, oui, qui a fait un peu de Luchon à l'époque, au 19e siècle, donc une sorte de Saint-Tropez, puisque toutes les célébrités parisiennes se pressaient ici. Victor Hugo, Lamartine, Flaubert, Maupassant sont venus ici. Paul Féval également, dont le Bossu commence tout près d'ici, dans la vallée du Louron.
Votre chemin d'écrivain, Bernard Minier, se termine donc ici. Quelle musique, quelle chanson choisiriez-vous et que vous associez à cet itinéraire que nous venons partager avec vous ?
Alors, mais le choix me paraissait évident, dans la mesure où mon commandant Servaz, mon cher Servaz, est un flic du SRPJ de Toulouse, et où nous étions tout à l'heure à Montréjou, là où j'ai grandi, et où on a franchi la Garonne. C'est bien sûr Claude Nougaro, c'est une Garonne.
C'est une Garonne, née comme trois pommes dans les Pyrénées.
C'était Le chemin d'écrivain de Bernard Minier. Nuit, son dernier polar, est à lire chez XO et Glacé chez Pocket. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur RTL.fr. Dimanche prochain, Virginie Despentes vous emmènera à Lyon.
C'est une Garonne. C'est une Garonne.
Et c'est en musique qu'on arrive rapidement vers les 13h, la pub et puis le rappel des titres. RTL, il est 13h.
Quentin Vinet, RTL Midi.
C'est bien la France qui organisa la rafle du Veldiv. 75 ans après, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron. Le président vient de commémorer le 75e anniversaire de l'un des épisodes les plus noirs de l'histoire de France. Plus de 13 000 juifs arrêtés à la demande des nazis avant d'être déportés en juillet 1942. Il était aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui était l'invité et qui salue un geste très fort. Près de 800 pompiers sont toujours déployés dans les Bouches-du-Rhône pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré hier après-midi à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence. Le feu est stabilisé depuis ce matin. Les flammes ont parcouru 750 hectares de végétation, 200 engins mobilisés, des hélicoptères et des canadaires. Concernant vos conditions de circulation aujourd'hui, Bison Futé voie rouge dans le quart sud-est, orange partout ailleurs dans le sens des retours. La mort de la romancière Anne Gollon, elle avait 95 ans, connue pour la saga Angélique, un des classiques de la littérature populaire avec une centaine de millions de lecteurs dans le monde, on l'a appris ce matin. Départ dans quelques minutes pour les coureurs du Tour de France. Au programme aujourd'hui de la 15e étape, 189 km entre Lessac-Sévérac-l'Église, c'est dans l'Aveyron, et le Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Valérie Quintin, les coureurs, ils vont avoir chaud aujourd'hui sur le Tour de France.
Ah oui, clairement, une trentaine de degrés, de toute façon, sur ce parcours. De toute façon, il va faire beau partout, chaud à peu près partout. On a juste une petite bande nuageuse qui va circuler du nord de la Bretagne jusqu'au nord Pas-de-Calais. C'est le cas depuis ce matin, ce sera le cas pratiquement jusqu'à ce soir. En revanche, la grisaille dans le nord-est, elle se dissipe peu à peu. Sur l'île de France, c'est réglé. On a aussi un beau ciel bien dégagé. Et puis, il reste encore un petit peu de mistral dans le midi, de l'ordre de 50 à 60 km/h. Vallée du Rhône reste les températures qui remontent. 24 à Brest aujourd'hui, 27 à Rouen et Besançon, 29 à Paris, 31 à Grenoble et Ajaccio, 32 pour Montauban et Perpignan.
Merci Valérie. C'est un de vos rendez-vous tout l'été sur RTL, un bonbon sur la langue, en compagnie de Philippe Robuchon et de Muriel Gilbert.
Un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Muriel Gilbert, bonjour.
Amis des mots, bonjour.
Allez, pour commencer, un petit jeu aujourd'hui.
Qu'est-ce qui relie les mots niche et chien ? En dehors du fait que l'un est censé habiter dans l'autre, quand il n'est pas vautré sur le canapé.
Je vois pas. C'est le même nombre de lettres, peut-être ?
Pas loin. Ce sont des anagrammes. Une anagramme, c'est un mot ou une phrase formée des mêmes lettres qu'un autre. Pour l'anecdote, en préparant cette chronique, j'ai saisi le mot anagramme sur Google. Il doit être peu demandé. Du coup, Google, qui n'est pas si malin que ça, a cru que j'avais fait une faute de frappe. Il manquerait plus que ça. Et m'a répondu, essayez avec cette orthographe, deux points, gare, maman.
Oh là.
Eh bien, ces deux mots sont l'anagramme d'anagramme. Allez, en passant, et on en reparlera un de ces week-ends quand on se penchera sur le sexe des mots. Et oui, l'été va être chaud. Mm-hmm. Mais retenez déjà que anagramme est féminin. Une anagramme, comme une nanagramme.
Mais alors, ça sert à quoi en fait les anagrammes ?
À rien, à s'amuser, ce sont des jeux de lettres. La recherche des anagrammes est un talent des amateurs de Scrabble par exemple, ou des candidats des chiffres et des lettres qui doivent composer des mots avec des lettres tirées au hasard. Certaines anagrammes sont des curiosités, comme celle de chien et de niche dont on vient de parler. Mm-hmm. Il y a aussi celle de soigneur qui est guérison.
Oh, c'est drôle.
Ouais, tandis que endolori par exemple est l'anagramme d'indolore. Et puis il y a des anagrammes célèbres dont certaines sont particulièrement bien trouvées, comme le commandant Cousteau, ça donne « Tout commença dans l'eau ».
Excellent.
Mmh. Et puis il y a la crise économique, plus étrange, donne le scénario comique.
Oui, pas toujours.
Mmh. Et Marguerite Yourcenar, l'auteur des « Mémoires d'Adrien », qui fut la première femme élue à l'Académie française en 1980, portait un pseudonyme. Ah. Son vrai nom en est la presque anagramme, Marguerite de Crayancourt. Elle a juste escamoté un C. Mais la plus jolie des anagrammes, c'est peut-être celle du prénom Marie. Vous la trouvez ?
L'anagramme de Marie, non, je donne ma langue au chat.
C'est aimer, le verbe aimer. Ronsard, au XVIe siècle, a écrit un poème qui commence ainsi. Marie, qui voudrait votre beau nom tourner, il trouverait aimer. Aimez-moi donc, Marie, faites cela vers moi, dont votre nom vous prie. Vous voyez, Philippe, l'anagramme, c'est aussi de la poésie.
C'est magnifique. Merci, Muriel. À samedi prochain.
À samedi prochain.
Un bonbon sur la langue sur RTL. C'est tous les samedis et tous les dimanches de l'été à 8h10 et à 13h avec Muriel Gilbert, auteur d'Au bonheur des fautes à la librairie Vuibert.